se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive vos champs participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.
Oh, Wariva, bienvenue dans votre podcast After Galaxy. Merci de nous suivre chaque semaine, de lâcher vos commentaires, de nous être fidèles sur votre appli, quelle qu'elle soit d'ailleurs. N'oubliez pas de liker, c'est important, de lâcher vos commentaires également. Pour ce podcast numéro 33, focus sur les demi-finales d'Europa League et d'Europa Conference League à suivre et à vivre sur RMC et sur RMC Sport. Nos drôles de dames sont là, alors pas tout le temps. Johan Crochet est là, ciao Johan.
Salut Nico, bonjour à toutes et à tous.
Allô Polo Breitner.
Bonjour mon cher Nico, bonjour tout le monde.
Alors pas de Fred Hermel, victime du footixisme du foot espagnol, qui a plus que des clubs en Ligue des Champions, c'est-à-dire les Espagnols, ils aiment pas vraiment le foot, ils aiment pas le foot vrai, hashtag foot vrai bien entendu. Pas de Julien Laurence, mais une voix, un visage bien connu du foot anglais sur RMC Sport, Salim Bangali. Salut Salim.
Hello Nico,
c'est plaisir que tu sois là toi.
Plaisir partagé.
Voilà, bienvenue, tu vas substituer Julien Laurence ce soir.
J'ai essayé.
Enfin ce soir, aujourd'hui d'ailleurs, n'importe quoi ce soir. Je vous donne le programme du jeudi 28 avril de ces demi-finales d'Europa League et d'Europa Conference League à 21h sur RMC et sur RMC Sport. En Europa League, il y aura West Ham, Eintracht Francfort, RB Leipzig, Rangers. En Europa Conference League, Leicester Roma et Feyenoord Marseille. Tiens, si tout va bien... Podcast spécial Feyenoord à venir également dans l'After Galaxy. Les quarts retour qui se joueront le jeudi 5 mai à 21h. On va débuter par l'une des belles affiches de ces demi-finales d'Europa Conference League. Duel anglo-allemand en Europa League entre West Ham et l'Eintracht. Et comme un air de déjà-vu pour ces deux clubs qui s'étaient déjà affrontés, c'était en Coupe des Coupes 1976 et c'était déjà en demi-finale.
And now it's all over. And West Ham are through to the final. 4-3 on aggregate and 3-1 tonight after a brilliant attacking performance by them. None greater than Trevor Brooking, who scored the two goals, one with his head and one with his foot. Keith Robson blasting the other one in. The Germans came and found that they had to attack.
Victoire 3-1 des Hammers ce retour après une défaite 2-1 à l'aller. Alors Polo, les plus jeunes le savent peut-être pas, mais les années 70-80, c'est vraiment les grandes heures de l'Eintracht Francfort. Hein.
Ah, t'as tout à fait raison, mais en plus West Ham c'est extraordinaire parce que dans la presse allemande, si tu veux, il y avait un titre que j'ai trouvé exceptionnel, c'est Francfort regarde qui vient frapper à la porte, mais en fait c'est pas frappé, c'était martelé à la porte. Donc c'était les Hammers évidemment, et donc c'était assez exceptionnel. Puis on faut pas l'oublier, hein, je parle sous le contrôle de Salim, c'est 60 000 places à West Ham, c'est plus de 50 000 places évidemment à Francfort. Mais t'as tout à fait raison. Alors historiquement évidemment le match du siècle pour Francfort, c'est la finale de Coupe d'Europe des clubs champions en 1960 contre le Real, perdu. Tu peux aussi parler des années 90 et notamment le titre manqué en 1992, mais évidemment, on va dire à partir des années 70, Francfort, c'est là qu'ils vont avoir leur ADN, ADN européen, ADN du foot allemand, en gagnant notamment les coupes, et ça c'est important. Alors évidemment, les coupes nationales aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ce que c'était avant, mais ils gagnent en 74, ils gagnent en 1975, en 1981, il y a la finale de l'UEFA contre Mönchengladbach, évidemment quatre équipes au passage allemande en demi-finale en 1980, et tout ça fait que... Et puis évidemment, cette demi-finale contre West Ham qui va... il y a des anciens, je pense qu'ils vont peut-être s'en souvenir, en Coupe des Coupes, avec d'un côté un certain Frank Lampard senior, faut pas l'oublier, et de l'autre, t'as quand même les deux plus grands joueurs de l'histoire de l'Eintracht, les deux champions du monde. Là, on en a parlé, Nico, tu te rappelles, qui vient de disparaître, c'est Grabowski, et l'autre, c'était son coéquipier Holzenbein, qu'on fait les grandes heures de ce Francfort des années 70. Je vais rajouter Karl-Heinz Köbel, qui est quand même recordman du nombre du match en Bundesliga avec 602, et 602 matchs, évidemment, avec Francfort. Donc c'est vrai que c'est comme ça que va naître en fait l'ADN de Francfort, une équipe de coups et de coupes, mais qui ne gagne pas la Bundesliga.
Et en 76, Salim, le West Ham avait atteint la finale hein, donc de cette Coupe des Coupes. Justement, le fait qu'il y ait ce petit clin d'œil de l'histoire, finalement, l'Eintracht et West Ham qui se retrouvent en demi-finale de Coupe d'Europe, on en parle de ça en
Angleterre. Oui, ça a beaucoup fait sourire en Angleterre. D'ailleurs, il y avait des gens, en tout cas des titres de presse, qui évoquaient notamment Frank Lampard Senior, justement, en disant bah, grâce à lui, à l'époque, West Ham avait atteint cette finale. Et puis surtout, celui qui a été évoqué, c'est Trevor Brooking, qui est peut-être moins connu en France, mais qui est une légende à West Ham. D'ailleurs, il est toujours de ce monde, et Trevor Brooking, lorsqu'il vient au stade, il voit à sa gauche une tribune à son nom. Dans le stade de Londres, vous avez une tribune, la Trevor Brooking Stand, qui est à son nom. C'est vous dire la légende que c'est. Il avait marqué lors de cette double confrontation face à Francfort.
Alors revenons un peu à l'actu. West Ham est aux portes de l'Europe en championnat. Ils sont à 5 points hein, du top 4. Est-ce que cette Europa League, c'est le gros objectif? Ou au contraire, est-ce que c'est l'APL? Est-ce qu'ils sont le cul entre deux chaises, les Hammers?
Non, ils n'ont plus le fessier entre deux chaises, puisque notamment après un résultat moyen ce week-end face à Burnley, aujourd'hui, ils le savent, faudra un miracle pour atteindre la quatrième place qui permet de se qualifier pour la Champions. Aujourd'hui, évidemment, le chemin le plus court sera cette demi-finale et cette finale, et donc une victoire finale en Europa League. Il faut bien rappeler une chose, c'est qu'en début de saison, West Ham n'a pas du tout cet objectif-là. West Ham, la saison dernière, finit sixième du championnat, ce qui est pour West Ham un super parcours. L'objectif cette saison, c'était à minima de faire sixième et pourquoi pas de rêver d'un petit parcours sympa en Europa League en fonction du tirage au sort et peut-être un huitième, etc. Au tirage, vous avez Zagreb, vous avez Vienne, vous avez Genk. Vous dites, ah, ça peut être un tirage sympa pour finir premier et pourquoi pas rêver d'un huitième. Ils finissent premier dès la cinquième journée d'ailleurs, donc la sixième journée même ils font tourner. Ils se prennent Séville en huitième, ils se disent bon, Séville ouais, ça va être compliqué, c'est l'équipe recordman, etc. Ils réussissent à sortir Séville. D'ailleurs, c'est un moment clé même dans l'histoire de West Ham. J'insiste et je veux en parler parce que le match retour, victoire 2-0 donc face à Séville. Et ce jour-là, ça faisait 6 ans, hein, ça fait 6 ans un peu plus que West Ham a investi ce stade du London Stadium. Et depuis d'ailleurs l'entrée dans ce stade, il y a toujours eu un désamour de ce stade parce que c'est pas un vrai stade de foot au final. Je rappelle,
ouais, c'est un peu froid, ouais.
Ce stade avait été fait à l'époque pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres.
D'ailleurs.
Voilà.
Ils sont intelligents, les Anglais.
Exactement. Et avec la piste d'athlétisme qui est en partie recouverte aujourd'hui. Mais bref, les tribunes sont assez éloignées du terrain, etc. Mais ce jour-là, face à Séville, il y a eu une fusion. Et j'utilise ce mot à bon escient dans tous les sens du terme ce jour-là. Le feu dans le stade et un tel amour entre joueurs, supporters et j'ai envie de dire stade, que ce match-là a tout changé dans l'esprit des fans.
Mais ça veut dire quoi? C'est tout pour l'Europa League maintenant?
Maintenant, objectivement, c'est all-in sur l'Europa League. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas dans le top 4 en Champions, c'est all-in sur l'Europa League.
Alors, Polo, pour l'Eintracht, en revanche, le calcul est le plus simple. Hein. C'est ventre mou de Bundesliga. Eux, en revanche, c'est vraiment tout pour l'Europe, non?
Ah bah oui, surtout après leur piètre performance de ce week-end. Ils se sont fait écraser par l'Union. Ils avaient évidemment encore la tête pleine de bulles après après la rencontre contre Barcelone. Ils étaient épuisés. Tu vois la défense centrale, Hinteregger, Ndicka, ils n'étaient pas du tout là au début alors qu'ils étaient super performants contre Barcelone. Donc très clairement, ils sont maintenant à 7 points d'une 7e place hypothétique pour une qualif en Europa Conference League. Donc il est évident que cette demi-finale contre les Hammers a une signification particulière. D'autant plus, si tu veux, qu'on annonce très clairement que c'est une fin de cycle s'il n'y a pas d'Europe l'année prochaine et pas n'importe quelle Europe. C'est-à-dire que même si, pour une raison XY, Francfort faisait une fin de parcours extraordinaire et se qualifiait pour l'Europa League, ça veut dire que des gars comme Kostic, comme Ndicka ne seront plus là l'année prochaine. Et il faudrait un truc exceptionnel, remporter l'Europa League pour aller chercher, évidemment, cette qualification via la Ligue des Champions, pour la Ligue des Champions. Donc très clairement, c'est all-in aussi, c'est tout ou rien. Voilà. Mais c'était un peu la même situation en quart de finale, quoi. Donc c'est ça un peu le problème.
Petit focus sur les entraîneurs de West Ham et de l'Eintracht hein, qui ont les réputations d'être assez conservateurs. Juste, Johan, j'aimerais bien t'entendre parce que Salim faisait allusion il y a quelques instants à ce match référence contre Séville. Je sais que toi, t'es très marqué par le jeu de David Moyes, hein, le manager des Hammers. Hein.
Ouais, très marqué en négatif, très sincèrement.
Non, mais honnêtement. C'est un peu Gasperini, c'est pas la même chose.
Non, c'est du Gaspacho qui a tourné.
C'est ça, c'est du Gaspacho qui est resté 3 heures en plein soleil. Mais, non, mais West Ham, honnêtement, c'est pas possible pour moi. Vous commencez à connaître ce que j'aime dans le foot et autant que spectateur neutre, je peux pas être attiré par si peu, par un bloc bas, par des contre-attaques, par des buts sur coup de pied arrêté, par aucun pressing offensif. J'ai fait des Puis en fait, je me suis dit, bah, c'est peut-être un a priori, j'exagère peut-être devant ce que je vois, etc. Donc j'ai été voir un peu les stats pour en fait, confronter à ce que je voyais et voir si je délirais ou pas. Et en fait, c'est une des équipes qui presse le moins, c'est une des équipes qui a le bloc équipe le plus bas, c'est une des équipes qui fait le plus de longs ballons, c'est une des équipes qui fait le plus de centres, c'est une des équipes qui a le moins souvent le ballon, c'est une des équipes qui surperforme le plus devant le but, c'est-à-dire qu'elle marque plus de buts qu'elle ne se crée d'occasion de qualité. Et pourtant, moi, quand je regarde l'effectif, je vois Declan Rice, je vois Bowen, je vois Benrahma, Vlasic, Yarmolenko, Fornals. Ah, je suis désolé, il y a beaucoup d'équipes en Première Ligue, ou dans d'autres championnats, d'ailleurs on peut élargir un peu, hein, qui ont une profondeur ou une qualité d'effectif offensif bien inférieure à ce qu'a West Ham, et qui propose autre chose que ce que propose West Ham. Donc oui, je suis très marqué négativement par ce que je vois de West Ham.
Salim, il n'est pas du tout d'accord. Mais...
Ouais, non, en fait, il y a des choses qui sont réelles dans le jeu, effectivement. C'est
un peu du kick and rush 2.0, quoi.
Le 2.0 est intéressant. 2.0, mais... ouais, en fait,
c'est juste... les sentinelles des X-Men, en fait.
Non, mais je vais corriger malgré tout ton propos, Johan, quand tu évoques notamment Yarmolenko ou Vlasic. Yarmolenko, lui, il est en fin de cycle, on sait qu'il va partir et il joue quasiment plus. Hein. Il ne fait que des entrées en jeu, puisque justement, il est beaucoup moins bon que celui qu'on a pu connaître notamment en Allemagne. Et Vlasic, c'est l'ombre de je ne sais quoi d'ailleurs, puisqu'au final il n'a jamais performé, que ce soit Everton ou même lorsqu'il était en Russie, peut-être un petit peu en sélection croate. Mais au final, offensivement, en fait, contrairement à peut-être l'idée reçue, oui, Saïd Benrahma est un très bon. Jared Bowen, je pense que l'Europe le découvre un peu plus et voit sa qualité, et on est tous d'accord là-dessus. Declan Rice est très très fort, et lui, pour le coup, ira très loin, même si Paulo Breitner n'est pas totalement d'accord avec moi. Pablo Fornals en Espagne a prouvé aussi. Malgré tout, Moyes joue avec ses moyens. Enfin, quand je dis ses moyens, non, il sait que sa défense...
Mais c'est, on ne peut pas dire une chose comme ça quand tu es un
club
de première ligue.
C'est rudimentaire ce qu'il propose quand même.
Non, mais je sais. Possible.
Mais justement, il sait que c'est rudimentaire, mais il sait que lui veut être efficace. Ouais. C'est son objectif.
Ouais. Non, mais c'est assumé après.
C'est assumé. C'est il sait que son back four est relativement moyen. Donc, il ne va pas faire que son back four va être à 30 ou 40 mètres de ses buts. Il va le mettre beaucoup plus bas. Il va faire en sorte que ses milieux défendent très bas. Et après, on joue en contre. Oui, c'est du kick and rush 2.0. Antonio, c'est un pivot qui est très bon, mais devant le but, il est nul. Mais en pivot, il est top. Ben, en pivot, il fait le taf et il donne le ballon à Bowen ou à Fornals ou à Benrahma qui fait le taf derrière. Je sais que ce n'est pas très beau, mais. Et Johan l'a très bien dit en chiffres tout à l'heure, en surperformant. Oui, West Ham surperforme comme ça depuis deux saisons.
Alors, Polo, vas-y, Polo.
Je suis là-dessus parce que c'est extraordinaire comment la différence de philosophie. Moi, je suis un grand critique de la Première Ligue, non pas pour les effectifs, mais comme quoi, finalement, la Première Ligue ne propose jamais rien en innovation. David Moyes, on me l'a vendu pendant des années, à la période Everton, où on me disait « Ah, oh, c'est formidable ce qu'il fait !» Mais c'est rien, en fait. C'est-à-dire, donnez-moi cet effectif, mettez un coach allemand à la place, vous allez voir ce que ça va donner. Et mettez même Gasperini, vous allez voir ce qu'il va faire de cette équipe. Donc, évidemment, la qualité individuelle des joueurs est là, mais collectivement en parlant, oui, c'est solide, c'est ça qui est terrible. Les mecs, c'est des Golgothes, il faut faire du MMA, il ne faut pas faire du football. Mais c'est, d'ailleurs, c'est l'un des thématiques qui n'est jamais abordée dans le football européen, c'est l'évolution physique des joueurs. Donc moi, quand je vois les Golgothes de Première Ligue, j'ai un peu peur. Tu veux peut-être qu'on parle d'Oliver Glasner?
La question que j'allais te poser, puisque là, visiblement, tu as taillé un costard à David Moyes, est-ce que Glasner est un conservateur lui aussi, alors, ou pas?
Alors, on le présente comme un conservateur, mais c'est beaucoup plus délicat, déjà parce que c'est un disciple de Ralf Rangnick, tout le monde l'oublie, mais son premier poste, lorsqu'il était à Salzbourg, il était le coach adjoint d'un certain Roger Schmidt, que j'adore, et donc le gegenpressing, c'est ça, en fait, la marque de fabrique d'Oliver Glasner. Tout le monde l'oublie aussi, mais quand il était, évidemment, en Autriche, jeune coach en Autriche, et qu'il était à l'ASK, donc le club de Linz, c'est lui qui l'amène en seconde division, quasiment directement, il l'amène en Europa League. Je rappelle qu'après, le coach était Valérien Ismaël, qui a été en 8e d'Europa League, mais en fait, il a bénéficié de l'héritage laissé par Oliver Glasner. Glasner revient à Wolfsburg, il qualifie l'équipe de la deuxième saison pour la Ligue des Champions, on voit ce qui se passe depuis qu'il n'est plus là. Il arrive à Francfort, il est en demi-finale de Ligue des Champions. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un conservateur? C'est qu'il y a une discipline tactique dans ces équipes qui sont assez impressionnantes. Et la deuxième chose, et d'ailleurs ça lui vaut souvent certaines critiques lors des conférences de presse, c'est que c'est presque un Giroud autrichien, c'est-à-dire qu'il a un 11 de départ et tous les matchs il va jouer avec le même. Or, on voit bien que ça tire la langue. Ce week-end, c'était un peu le cas, même s'il a fait un turnover nécessaire et obligatoire, parce qu'il y a des jours pressés blessés, dont Kevin Trapp. Mais si tu veux, il a un peu cette réputation, alors que le mec, c'est c'est quelqu'un qui est toujours en train de savoir le maximum. C'est quelqu'un qui vraiment travaille tactiquement pour savoir comment on fait évoluer ses équipes, etc. On l'a bien vu ce qu'il a fait contre Barcelone. Il ne faut pas faire jouer Barcelone, donc on ne va pas se mettre à jouer partout pour que ça parte. Mais il y a des joueurs de qualité dans cette équipe, et c'est peut-être ce problème-là, c'est que Glasner, il a du mal parfois, dans ces systèmes tactiques extrêmement, j'ai pas envie de dire rigides, mais extrêmement disciplinés, à valoriser la qualité individuelle de ces joueurs. Alors là, il y a Kostic, il y a Lindström, même s'il est jeune, il y a Kamada évidemment, et il faut les laisser libres pour essayer de faire la différence.
West Ham Eintracht Francfort, donc demi-finale aller qui aura lieu le 28 avril, demi-finale d'Europa League, donc le match qui a commencé déjà entre Paulo Breitner et Salim Bongalé, hein, vous l'aurez compris. En Europa Conference League, autre joli duel pour ces demi, Leicester-Roma, les Romains qui en quart retour ont enfin réussi à écarter les Norvégiens de Bodø/Glimt. Mourinho ne boudait pas son plaisir après cette qualif, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas son style.
No, giocare bene e vincere è perfetto, è fantastico. Giocare bene e perdere non piace, solo piace a quelli che si difendono con la filosofia che la mia squadra ha un'identità, io sono allenatore con un'identità, però dopo non vince niente.
Bien jouer et gagner, c'est parfait, fantastique. Bien jouer et perdre ne donne aucun plaisir. Ça n'en donne qu'à ceux qui se défendent avec la philosophie du « mon équipe a une identité ». Je suis un entraîneur avec une identité, mais je ne gagne rien au final. Discours très mourinien sur Sky Sport juste après la rencontre. Johan, est-ce que Mourinho a réussi à poser sa patte sur la Roma? Est-ce que ça y est? On a souvent eu ce débat, hein, cette saison dans l'after. Hein.
Ouais, et alors déjà on peut commencer par dire que enfin moi en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit après le match, première chose. Parce que s'il n'y a que les entraîneurs qui gagnent, qui ont raison ou qui donnent du plaisir, ça veut dire qu'il y a qu'un entraîneur par championnat chaque saison qui donne du plaisir et qui a raison. Ce que je considère
lui dit plutôt l'inverse.
Ne
il dit
pas être une vérité.
Lui, ce qu'il veut plutôt dire, c'est bien jouer et perdre, ça donne pas de plaisir. Lui, c'est plutôt dans ce sens-là. Il voit plutôt le verre à moitié vide, quoi.
Ouais, ouais. Bah, c'est ce que je dis. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui jouent bien et qui ne gagnent rien en trophée à la fin de la saison, qui donnent du plaisir à leurs supporters. J'en suis totalement persuadé. Oh, ouais. Il suffit de penser à l'Atalanta, à Sassuolo, à plein d'autres. Et puis ensuite, sur la patte, je réfléchissais à ce mot-là parce que je me disais, il faudrait déjà définir ce qu'est en fait la patte Mourinho. Parce que sur ces dernières années, autant je pense que la période Porto-Chelsea, on voit à peu près, Inter-Real, on voit à peu près. Après, j'ai l'impression que ça s'est un peu dilué, que ces expériences, notamment à United et à Tottenham, c'était assez difficile à définir. Donc, moi, je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait, en termes, quand on parle de patte, donc de jeu, finalement, je ne m'attendais pas à grand-chose quand il est arrivé. Et ce qu'on voit de la Roma de Mourinho, c'est qu'après, il y a eu deux premiers mois, un mois et demi, deux mois, en tout début de saison, où c'était vraiment prometteur sur le plan de jeu. C'était peut-être lié, d'ailleurs, à la qualité des adversaires qui étaient affrontés. Il y a eu un virage total pendant... de longues semaines, ça a d'ailleurs coïncidé avec la fameuse claque à Bodø/Glimt en phase de groupe de la Conference League, où bah, en fait la Roma elle a totalement abandonné le ballon, il y avait moins d'ambition dans le jeu, il y avait beaucoup moins de pressing aussi, le bloc était plus bas. Et là récemment, c'est en train de revenir un petit peu à ce qu'on voyait en début de saison. Il y a des séquences collectives, on voit beaucoup plus d'actions construites, on voit des vrais mouvements collectifs. Et d'ailleurs, Mourinho, là, on a passé un son où il parlait, où en gros, il disait, bah, moi, je préfère gagner et à la limite mal jouer. Enfin, lui, il préfère avoir le jeu et gagner, évidemment, comme tout le monde. Mais quitte à choisir, autant gagner si on n'a pas le jeu. Et en fait, il se plaignait quand même un peu de cette réputation-là lui-même, alors qu'il tient ces propos-là, parce que l'autre jour, il disait, après une victoire sur la pelouse de la Samp, il disait. Voilà, si une équipe d'un autre entraîneur avait marqué un but comme on l'a marqué, parce qu'en fait c'est une action qui est partie de Rui Patricio, c'est à droite, à gauche, puis à droite, et puis c'est revenu à gauche, un but super collectif, etc. Il avait dit, c'était l'équipe d'un autre entraîneur, on en parlerait, on en ferait des caisses, ça ferait le tour du monde.
D'ailleurs, juste je coupe deux secondes, parce que dans la suite du son qu'on a écouté là, il dit exactement ça. C'est-à-dire, il dit, beaucoup nous critiquent, mais on a très bien joué, on s'est fait tailler après le match contre Salernitana, mais au final, on joue bien aussi. Donc,
ouais, alors,
il se contredit un peu aussi.
Ouais, alors honnêtement, le match contre la Salernitana, si lui trouve qu'ils ont bien joué, honnêtement, c'était une purge totale. Ouais. J'aurais plutôt pris l'exemple de la Sampdoria, j'aurais pris d'autres exemples que la Salernitana, mais bon, bref. On a quand même une équipe qui se crée quand même beaucoup d'occasions, et ça, c'est à mettre au crédit de Mourinho, et pas simplement en transition. C'est une équipe qui arrive quand même assez facilement à se créer des occasions. Le problème, c'est que je parlais tout à l'heure de West Ham, qui est une des équipes qui surperforme le plus en Première Ligue, et bah, la Roma, c'est la seule équipe du top 8 en Italie qui sous-performe devant le but. C'est l'équipe qui a le deuxième plus tôt au total d'expected goals, et malgré tout, elle rate beaucoup, beaucoup trop d'occasions. Donc on se dit, finalement, si elle avait été simplement On va même pas parler de surperformance, simplement réaliste. Peut-être qu'elle serait dans les quatre premiers. Et à ce moment-là, est-ce qu'on aurait vraiment la même analyse sur ce qu'a apporté Mourinho ou pas? J'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que défensivement, elle est plus solide. Il n'y a pas de problème. On est passé de 29% de clean sheet. Là, ils sont passés à 40% cette saison. Et on le voit. C'est un peu plus, c'est un peu moins panique à bord, en fait, avec Mourinho. Je trouve que ça, c'est vraiment notable. Après, sur le plan de la personnalité, parce que c'est vraiment ça qui était attendu, il y a ce côté défensif-là, évidemment. C'était vraiment de travailler sur le caractère des joueurs, sur la solidité, sur l'esprit de faire corps, sur juste pas, on en prend un, de toute façon, vu qu'on en a pris un, maintenant, si on en prend deux, c'est pareil. Puis trois, ça sera encore pareil. Bon, finalement, quatre ou cinq, c'est pareil aussi. Ça, on l'a vu 50 000 fois à Rome. Là, on voit vraiment une équipe qui lâche rien. On voit une équipe avec un vrai caractère. C'est l'équipe qui marque le plus de buts dans le dernier quart d'heure en Italie. Ça compte aussi. Et puis, on voit une équipe très agressive, parfois un peu trop. Rendez-vous compte, 102 cartons jaunes et 7 rouges déjà depuis le début de la saison en championnat. Simplement en championnat. En 32 journées, donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour vous donner une idée, parce que c'est toujours bien de... J'aime bien toujours un peu comparer. La Roma a commis 4 fautes de moins que la Juve cette saison, mais elle a pris 45 cartons de plus.
Ouais, mais ils font des vraies fautes, tu vois.
Et on, voilà, c'est ça. Et on peut faire la comparaison avec à peu près tous les gros clubs. Et puis, il y a aussi des cartons pour contestation. Et ça, c'est un peu le truc de Mourinho. Donc, la patte Mourinho, sur le plan de la personnalité, oui, c'est ça qui était attendu. Sur le plan du jeu, ça alterne du très bon, honnêtement. Moi, j'ai vu du très bon à la Roma. Et j'ai vu aussi du très très mauvais, où l'équipe ne savait pas quoi faire. Donc c'est assez difficile à lire finalement.
Alors Salim, ce Roma Leicester va aussi marquer les retrouvailles entre Mourinho et Brendan Rodgers. Ils ont bossé ensemble à Chelsea quand Mourinho est arrivé à Chelsea en 2004. Et alors c'est vrai que niveau style, c'est pas franchement les mêmes. Ils sont souvent affrontés, notamment en Première Ligue, et ils ont pas du tout la même vision du foot. Hein. Ça aussi, c'est intéressant.
Non, quand on voit Rodgers, c'est notamment ce qu'il applique aujourd'hui à Leicester, mais comme il l'a fait par le passé, que ce soit au Celtic, mais même à Liverpool. Enfin, ce jeu offensif est assumé chez Rodgers. Aujourd'hui, c'est un 4-3-3, hein, parce qu'officiellement, on parle de 4-5-1, mais les deux ailiers sont tellement hauts que c'est un 4-3-3. Avec également des latéraux qui participent beaucoup au jeu offensif, ce qui d'ailleurs entraîne souvent des espaces éloquents dans le dos des latéraux. Donc oui, Rodgers, il veut marquer, il veut parfois presque trop marquer, ce qui entraîne souvent un déséquilibre. D'ailleurs, ça s'est vu cette saison avec l'absence de Fofana, qui a été blessé tout au long de la première partie de saison. Les clés du camion en défense centrale étaient notamment données à Söyüncü qui n'est que l'ombre du défenseur qui était blessé, si bon il y a deux saisons. Et c'est vrai que défensivement, quand on avait quasiment du 1 contre 1 entre les défenseurs centraux et les attaquants adverses, ben souvent c'était la prime à l'attaquant. Donc Rodgers, il assume ce déséquilibre-là, quitte parfois à prendre beaucoup de buts. Je vous rappelle, cette saison, Leicester, c'est 12 défaites en championnat. La saison dernière et la saison d'avant, ils ont fini 2 fois 5e. Là, ils sont quasiment dans la deuxième partie de tableau. Donc cette saison est délicate parce qu'encore une fois, Rodgers ne veut pas négliger ses principes et veut toujours aller de l'avant, parfois trop.
Alors, la Roma est 6e de Serie A, à 6 points de la 4e place. Elle doit encore jouer l'Inter et le Napoli. Là, Johan, est-ce que... alors, c'est vrai qu'une non-qualification plutôt en Ligue des Champions paraît compliquée hein, pour la Roma. Est-ce qu'une victoire en Europa League permettrait de sauver la saison? Et limite, alors, on se posait la question tout à l'heure pour West Ham et l'Eintracht, est-ce que l'Europa League est une priorité? Est-ce que l'Europa Conference League est une priorité pour la Roma aujourd'hui?
Ah oui, bah, de toute façon, à l'heure actuelle, ça semble plus simple de se qualifier ou de faire un beau parcours européen que de finalement terminer quatrième, même si il faudra voir le résultat du match contre Naples. Mais bon, Naples joue le Scudetto et c'est une équipe qui est vraiment très très forte et qui dégage quelque chose de plus que la Roma, donc ça paraît assez compliqué, même si la Juve a fait match nul ce week-end et donc ils peuvent potentiellement se rapprocher à 3 points. Honnêtement, ça paraît quand même très 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 délicat. Le calendrier est pas bon non plus, donc on verra comment cette Roma va terminer le championnat. Est-ce que cette Conference League peut sauver la saison de la Roma? Je pense que ce qui va permettre de trancher, c'est le classement en championnat. C'est-à-dire que tu peux finir encore entre 4 et 8. Bah, si c'est 8e, ça sauvera péniblement ta saison. Si c'est 6e, 5e ou 4e, tu feras mieux que Paulo Fonseca, c'est clair, parce que tu auras gagné une Coupe d'Europe. Je rappelle quand même que ce serait la première de l'histoire du club. Et puis, tu finiras 6e, 5e ou 4e. La Roma avait fini 7e la saison passée. Donc, globalement, je pense quand même, après pas mal de réflexions là-dessus, qu'une victoire européenne, un trophée qu'attendent les supporters de la Roma depuis tellement longtemps, qu'attend le club depuis tellement longtemps, même si c'est la fameuse que la petite Coupe d'Europe, entre guillemets, la première édition, etc., tout ce que vous voulez. Quand on voit les affiches en demi-finale, c'est quand même pas mal. Ça, malgré tout, c'est trop important pour la Roma d'avoir un trophée européen. Donc, ça, c'est clair que le travail de Mourinho serait jugé positif, même si, allez, il finit 8e et que ce serait une déception au championnat.
Et en quart d'Europa Conference League, les Foxes, eux, avaient éliminé le PSV. 0-0 à l'aller, un succès 2-1 à Eindhoven dans la douleur, mené 1-0 jusqu'à la 77e. Leicester va renverser la rencontre grâce notamment à un but de James Maddison, très heureux après cette qualif.
So proud of the boys, so proud of everyone here, you know. Just so proud of everyone because it's such a, these nights, it's such a big build-up and you get that big game feeling, you know, that you, before the game you can just tell it's a big game.
Voilà, il est fier, so proud, et un gros match. Alors, on sent qu'il la joue à fond, hein, cette Europa Conference League, Salim Leicester.
Brendan Rodgers fait très peu tourner en Europa Conference League, pour le coup. J'ai presque l'impression qu'il fait davantage tourner en championnat qu'en Coupe d'Europe, justement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 12 défaites en championnat. Cette équipe de Leicester qui a fini 2 fois 5e de suite en championnat. Et on se disait que cette année, c'était peut-être la bonne pour réussir à accéder à ce top 4. Sauf que cette saison, ben, un homme a été absent, Wesley Fofana, et ça a totalement tout cassé dans la dynamique défensive et même de l'équipe au final de Leicester. Leicester aujourd'hui est beaucoup trop loin des places européennes pour espérer se qualifier, ne serait-ce que pour l'Europa Conference League l'année prochaine via le championnat. Donc au final, ils vont aussi un peu, quasiment comme West Ham, faire all-in sur cette demi-finale et sur cette compétition européenne.
Ça, c'est une question que je vais vous poser à tous les trois. Alors Mourinho, quand on lui a demandé qui est le favori, il a dit bah, c'est Leicester parce que c'est un club de première ligue. On sait qu'il est très attaché à ça, l'aspect financier, etc. Qui est le favori selon vous de cette demi-finale finalement entre Leicester et la Roma? Polo, tiens, toi, l'objectif de la bande. Si tu devais mettre une pièce.
Honnêtement, j'en ai aucune idée. Non, mais très, très sérieusement, je pense que ça peut aller dans les deux sens. C'est peut-être plus important pour Leicester que la Roma, mais moi, c'est toujours. Deux matchs comme ça, c'est surtout la forme du moment. Et puis peut-être aussi que les clubs italiens contre les clubs anglais, statistiquement parlant, c'est pas forcément le pays qui préfère.
Ça, c'est sûr, je te confirme, Polo.
Donc, je mettrais peut-être un petit plus pour Leicester. Tout en sachant qu'évidemment, je préférerais que la Roma soit en finale, mais ça, c'est un autre débat. Mais je mettrai un petit plus pour Leicester.
Tout dépendra d'un homme aussi, Jamie Vardy, s'il est de retour ou pas de blessure. Pour l'instant, il l'est, mais il se dit qu'il pourrait être à minima de retour pour le retour, voire peut-être un peu pour l'aller. Et forcément, offensivement parlant, même si on a un Patson Daka plutôt intéressant, un Demola Lookman plutôt intéressant, mais Jamie Vardy, c'est le leader, c'est l'historique du club. Et quand il est là, ben Leicester ne joue pas exactement de la même manière.
Johan, tu dis comme José, c'est Leicester parce qu'ils ont de l'argent?
Non, parce que la Roma n'est pas pauvre non plus, hein, et on va pas faire ce discours-là non plus. Moi, ce que j'aimerais, c'est évidemment que ce soit la Roma. Je suis assez d'accord sur les questions de dynamique avec Polo, parce qu'on l'a vu sur Atalanta Leipzig, notamment. En quart de finale de l'Europa League, c'est très très important pour la Roma. Il ne fera pas tourner non plus. Attention, il y a un match contre l'Inter qui va arriver aussi un peu au même moment, donc ça compte aussi le calendrier. Voilà, après je honnêtement j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de, en fait j'ai l'impression que la pièce elle pourrait tomber des deux côtés, ouais. Et que au final ça peut tourner dans n'importe quel sens, parce que je vois des qualités dans les deux équipes, je vois des vrais points faibles dans les deux équipes. Tu te dis pas il y a un énorme favori en fait, donc on verra bien. Mais pour la question des clubs anglais et des clubs italiens, juste vous donner deux exemples. La Roma va faire sa troisième demi-finale, lapsus peut-être révélateur, sa troisième demi-finale en cinq saisons en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions, c'était en 2018, défaite contre Liverpool. En 2021, c'est en Europa League, défaite contre Manchester United. Et donc là,
jamais
match
203.
Contre Leicester, peut-être. Ou alors pas du tout.
Ah. Allez, on rebascule en C3, en Europa League.
Sind das Ding und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Im Elfmeterschießen, liebe Zuschauer.
21 mai 1997, le tir au but victorieux de Mark Wilmots en finale de Coupe de l'UEFA qui offrait la Coupe de l'UEFA à Schalke 04. Dernière C3 en date remportée par un club allemand. On va s'intéresser à la demi-finale entre le RB Leipzig et les Rangers. Polo, un succès pour le RB Leipzig alors qu'il va affronter les Rangers donc en demi d'Europa League. Ce serait un symbole fort et puissant pour le foot allemand, hein, pas que pour le club d'ailleurs.
Ah oui, ce serait très important. 25 ans pour... Enfin, quand on voit les titres ou les finales ou les demi-finales des clubs allemands dans cette compétition historiquement parlant, je peux t'assurer que ça fait très très mal. Et d'ailleurs, c'est un débat récurrent en Allemagne. Est-ce qu'on doit la jouer à fond, pas à fond, pour qu'on n'ait pas là, ou tout simplement du niveau du football allemand. Et puis, rappelons aussi quand même en 97, cette équipe était surnommée les Eurofighters parce qu'il n'y avait pas vraiment de talent individuel au-dessus de la moyenne par rapport à l'équipe de l'Inter de l'époque, et notamment. Donc, si tu veux, ce serait extraordinaire que tu vois. Imagine les deux clubs allemands en finale. Tu vois, ils sont fous là. Ça serait presque mieux que 2013, je pense, entre le Bayern et le Borussia Dortmund, parce que cette équipe d'Europa League, au-delà de l'évolution du football, est considérée, je pense, à juste titre, important pour la densité des championnats. Et moi, je suis toujours un grand fervent de la densité des championnats, qui sont d'ailleurs mis mal à l'aise et mal en point à cause des systèmes actuels de qualification où on favorise toujours la Ligue des Champions, etc. Moi, je suis un grand fan de l'Europa League et je pense que c'est important, en effet, que les clubs allemands soient en finale et notamment le RB Leipzig.
On rappelle, un dernier club allemand en finale, c'est le Werder, c'est 2009, en 2009. Ouais, ça commence à remonter également. Alors, comment t'expliques, toi, que les clubs allemands s'intéressent je ne sais pas d'ailleurs s'ils s'intéressent, mais comment t'expliques que là, les clubs allemands, là, depuis quelques saisons, finalement, aient plus de résultats dans cette C3?
Bon, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Premièrement, c'est l'évolution du foot mondial où il y a de plus en plus d'argent. Donc c'est avant la pandémie, hein, évidemment, où des clubs. Je parle toujours de la taille. Moi, j'ai des copains, par exemple, d'origine portugaise, qui me posent toujours la question, mais Polo, pourquoi les grands clubs allemands n'arrivent pas aujourd'hui? Et c'est souvent au niveau de la compétence. Compétence du manager, compétence de la direction. Où Lyonnais, il est unique, hein, il n'y en a pas partout. Mais il n'y avait aucune raison, historiquement parlant, pourquoi Francfort n'est pas un grand club d'Europe au sens de tous les autres. Pourquoi Cologne n'arrive pas avec ses stades de 50 000 places, les stades de 60 000 places, etc. Donc c'est important de se rendre compte que l'Europa League, depuis quelques années, revient un petit peu à la mode justement en Allemagne, aussi parce que des clubs allemands travaillent mieux. Moi, je trouve qu'ils travaillent bien en ce moment, mais le problème, ils sont pénalisés, de mon point de vue, par la densité des clubs allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Francfort. On dit toujours qu'il faut un championnat très fort pour faire une Coupe d'Europe très forte. Ben, moi, j'en suis pas tout à fait persuadé à ça, parce que, justement, par le classement UEFA, tu joues peut-être la Coupe d'Europe qu'une fois tous les deux ans, trois ans. Or, l'expérience européenne me semble importante. Francfort là, Cologne l'a perdu. Wolfsburg, ils font un peu n'importe quoi. Mönchengladbach, on a vu ce que c'était, et il s'écroule complètement en ce moment. Et alors, c'est important d'y être chaque année. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pourquoi les clubs allemands, ne surperforment pas en Coupe d'Europe. Et le fait de dire que les clubs ne jouent pas forcément cette compétition, oui, il y a des joueurs qui déclarent, je pense à Dürmierbay et Leverkusen qui ne veut pas jouer l'Europa League, mais j'aimerais juste lui dire répondre, mais étant à 5 sélections dans ta vie avec l'équipe nationale, commence à gagner l'Europa League avant de rêver à la Ligue des Champions. Mais sinon, globalement, moi, dire, c'est toujours une excuse facile aussi de dire on ne la joue pas, je trouve.
Ouais. Johan, alors ce qui est intéressant, c'est que ce désamour, ou en tout cas ce manque de résultats de la C3, on l'avait souligné aussi pour les clubs italiens. L'Inter avait perdu la finale de C3 2020 contre Séville. Il fallait remonter à 99 pour trouver un club italien en finale. C'était Parme face à Marseille à l'époque. Là aussi, c'est un peu le même constat qu'en Allemagne sur les dernières années finalement.
Ouais, on est un peu copains comme cochons avec Polo sur la C3, parce que vous un peu de mal à la gagner depuis.
Aussi,
c'est pas faux. Mais pour vous donner pour vous illustrer un peu le manque d'intérêt dans l'Italie d'une grande partie de l'opinion et aussi des médias qui ont vraiment un rôle à jouer, je pense, là-dedans et qui ne le jouent pas en Italie vis-à-vis de la C3 et de la C4. Un exemple, jeudi dernier, quart de finale retour de C3 et de C4 pour la Roma et l'Atalanta. La nécessité de gagner pour les deux équipes, qu'est-ce qu'on trouve en une de la Gazzetta dello Sport? Les deux matchs, ils sont tout en bas de la une, à côté d'une pub pour une paire de pompes. Ça doit occuper à peu près 5% de la une. Même chose pour le Corriere dello Sport, avec un petit encart tout à droite. Des sujets majeurs traités, c'est les arbitres pas au niveau en Serie A. C'est vous dire un peu le degré d'importance accordé aux Coupes d'Europe quand on préfère titrer sur les arbitres en Serie A. La bagarre Atlético City. Enfin bref, c'était pareil l'année dernière quand la Roma était en demi-finale d'Europa League. Je pense que si on veut créer un climat où les clubs prennent de plus en plus au sérieux cette compétition, il faut aussi que les médias notamment jouent leur rôle, qu'on les questionne, que quand il y a une mauvaise performance, bah, qu'on leur rentre dedans, que quand un entraîneur fait trop tourner, bah, on lui rentre dedans aussi, parce que pourquoi il y a des équipes qui... puis c'est pas qu'une question de profondeur d'effectif, hein, parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, bah, pour prendre un exemple de allemand, pas italien, j'ai déjà vu Leverkusen jouer le jeudi soir à 21h et jouer le samedi à 15h30. Hein. Et puis ça les empêchait pas d'être performants et de jouer avec quasiment la même équipe à chaque fois. Hein. Donc il faut arrêter de se cacher derrière toutes ces excuses-là, comme le disait Polo, où on la joue pas, etc. Faut vraiment que créer un cercle vertueux à travers aussi une certaine pression qui doit être mise aussi sur les entraîneurs, les présidents, sur les joueurs, etc. Alors c'est vrai qu'ils la prennent un petit peu plus au sérieux récemment parce qu'il y a l'Inter en finale, parce qu'il y a eu la Roma en demi-finale un an plus tard, qui a la Roma en demi-finale là, de la C4 cette fois-ci en 2022, mais il n'y a pas d'engouement. Donc ça c'est je trouve que c'est totalement anormal, d'autant plus que c'est les mêmes qui ensuite vont vous dire ah bah il y a pas de club en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est lamentable, l'Italie c'est le déclassement, etc. Et à ce sujet là d'ailleurs je voulais poser une question à Polo par rapport à ce qu'il vient de dire. Moi j'ai l'impression, quand on regarde un peu les performances récentes, enfin c'est pas qu'une impression, c'est un constat plus qu'une impression, quand on regarde les 5 dernières années en Coupe d'Europe, quand on prend le ranking UEFA des clubs, etc., il y a l'impression vraiment d'avoir un duopole anglais-espagnol. Ensuite, vous avez un duopole allemand-italien, italien-allemand, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Et puis ensuite, vous avez la France, Portugal, et puis un peu tout le reste. Et quand je vois les clubs allemands qui reviennent un peu en force en C3 et en C4, quand je vois les clubs italiens qui reviennent un peu en force en C3 et en C4, je voulais voir avec Polo s'il n'avait pas l'impression que peut-être c'est aussi un constat, comme un aveu en fait, des clubs italiens et allemands en se disant bah, vu qu'en Ligue des Champions, à part notre gros club CF, le Bayern,
lâche l'affaire, tu veux dire,
et la Juve pour l'Italie, même si la Juve fait pas le taf depuis quelques saisons, bah nous peut-être qu'on a tout intérêt à se créer des histoires européennes pour l'instant en Europa League et en Conference League, et puis quand on retrouvera un niveau, parce que les projets de Milan, de l'Inter, de la Roma, c'est quand même assez récent, bah on pourra peut-être réafficher des ambitions en Ligue des Champions.
Alors enfin, c'est dense ta question. La première, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le duopole anglais-espagnol. Oui, l'Espagne a dominé pendant des années le coefficient UEFA, mais je pense que l'Angleterre, justement, est en train de marteler en ce moment sa première place. Et le fait qu'ils aient des équipes comme Leicester et West Ham en demi-finale de Coupe d'Europe devrait aussi nous faire réfléchir sur notre modèle, sur nos modèles nationaux, au passage. Parce que là, je reviens toujours à ma petite phrase, hein, c'est l'idiot du village, les championnats nationaux contre l'idiot du voyage. Le championnat globalisé, et vu la marche du monde, bah, c'est le championnat globalisé qui va l'emporter. La deuxième, donc, par exemple, cette année, les clubs allemands ont surperformé. On va évidemment parler de Villarreal, Bayern, mais les clubs allemands ont surperformé contre les clubs espagnols. Le Betis, le Barça pour l'Eintracht, Leverkusen avait aussi battu le Betis en match de coupe. Il y a la Real Sociedad, pardon, pour Francfort. Je sais même plus, la Real Sociedad pour Leverkusen, excusez-moi. Et donc voilà, je pense par contre que dans ce projet, Dortmund n'est pas au niveau à l'heure actuelle, que Leipzig est à sa place, mais pas forcément en Europa League, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller plus loin qu'une huitième de finale? Et puis, il faut jouer absolument l'Europa League. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, au classement de la Bundesliga, c'est 5e Francfort, c'est 5e Fribourg, 6e Union Berlin et le 7e c'est Cologne. Les deux derniers étant en deuxième division il y a trois ans encore. Et là, donc tout ça fait où est Mönchengladbach, où est Wolfsburg, où est ce qu'on appelle le ventre mou du championnat italien, c'est-à-dire la Fiorentina, par exemple, il y a quelques années, des clubs comme ça, sans parler du grand football italien qui a dominé l'Europe à partir de la milieu des années 80. C'est, je pense qu'on a le droit de mieux travailler sur des compétitions particulières, mais on peut pas dire c'est l'Europa League qui doit devenir importante s'il n'y a pas l'oseille en face. Il y a peu de temps. Tant qu'on orientera l'argent du football vers la Champions League, c'est un problème de redistribution et ça ne marchera pas.
Mais alors, attention
vas-y,
là-dessus, parce que...
intervenir aussi. Vas-y.
Alors, je fais juste rapide. Moi, je lisais un site économique italien qui expliquait que là, déjà, à l'heure actuelle, sans compter la billetterie, etc., hein, juste sur les primes de qualification et les primes de résultats, la Roma... même la petite Coupe d'Europe, c'est déjà 15 millions d'euros d'entrée. C'est-à-dire, c'est les rentrées quand tu arrives en phase de groupe de la Ligue des Champions.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu ailles en demi-finale. Tout est relatif, bah
oui.
C'est ce que te dit Polo.
Oui,
que
mais, bah, oui, mais c'est peut-être
groupe,
plus facile.
En Champions, tu vois, sans compter les dotations en victoire, etc.
Bien sûr, mais attention, qu'est-ce que tu vas retenir à la fin de ta saison?
Ça, on est d'accord.
Mais telle équipe, elle va être en phase de groupe, ou telle équipe, elle a espéré remporter une Coupe d'Europe.
Mais nous, on voit
c'est ça aussi le truc.
Nous, on voit ça avec nos yeux de romantiques et de passionnés, eux voient ça comme avec leurs yeux de gestionnaires. C'est tout le problème.
Vas-y, oui, mais même en termes de gestionnaires, je suis désolé, aller loin en conférence Europa League, c'est peut-être moins compliqué. C'est peut-être moins compliqué que d'aller loin, c'est même sûr, c'est moins compliqué que d'aller loin en Ligue des Champions. Et quand tu vas loin en Europa League, tu vas tirer quand même 15 ou 20 millions d'euros hors billets.
Je vais juste prolonger un instant le propos de Johan il y a quelques minutes quand il évoquait l'attitude de la presse italienne par rapport à l'Europa League, à l'Europa Conference League. Juste cette attitude, comme quoi en Angleterre ça a totalement changé. Il y a quelques années c'était pareil. Il y a quelques années, l'insulte qu'on avait en Angleterre c'était de dire oh, toi tu vas jouer sur Channel 4. Channel 4 c'était une chaîne qui diffusait le jeudi l'Europa League en mode toi tu joues le jeudi donc me parle pas. C'était souvent ce que disait Ferguson à certaines autres équipes, Sir Alex. Mais maintenant, et ce depuis plusieurs années, dans la presse anglaise, je vous assure, il y a des pages entières sur l'Europa League et cette année même sur l'Europa Conference League, parce que Tottenham l'a joué aussi. C'est vous dire que...
Mais qu'est-ce qui a changé alors? Pourquoi ils ont...
Mais justement, parce qu'en plus, il y a des équipes qui l'ont gagné. United en 2017, ouais. United qui a fait aussi finale de Coupe d'Europe la saison dernière. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, en plus, on voit les clubs anglais qui ne font plus tourner ou très peu tourner dans ces compétitions-là. Ils veulent la gagner. Contrairement à peut-être ce qu'on voit un peu moins en Allemagne ou en Italie, quoique c'est peut-être moins le cas cette saison, mais en Angleterre, il y a ce changement d'attitude. De la part des clubs, ça a créé un cercle vertueux, la presse aussi les suit, et vice-versa.
Je ne peux pas être d'accord avec ça. Si Leipzig, ce que vous dites, je comprends vos arguments, je ne suis pas d'accord. Leipzig, s'ils finissent finaliste de l'Europa League, victorieux de la Coupe d'Allemagne et cinquième du championnat, il va leur manquer tout l'argent l'année prochaine de la Ligue des Champions. Et donc, ils favoriseront toujours la Ligue des Champions par rapport à l'Europa League. Alors, et c'est
après,
pour ça
s'ils gagnent l'Europa League, ils vont en Ligue des Champions.
Mais oui, mais il faut la gagner. C'est-à-dire que le problème, c'est que si tu fais un super parcours et que tu es en finale, tu as dit il y a 5 minutes que l'Allemagne n'était pas en finale d'Europa League depuis 2009. Donc, ça serait presque un exploit, quelque part, d'être à nouveau en finale d'Europa League. Et ce n'est pas valorisé financièrement, finalement, parce que quand tu es en phase de groupe de Ligue des Champions, c'est 30 patates. Et donc, moi, je veux bien qu'on fasse un parcours pour gagner 15 millions, mais on ne peut pas raisonner comme ça. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que les clubs raisonnent.
Un mot quand même, Salim, sur l'adversaire de Leipzig en demi-finale d'Europa League, les Rangers, emmenés par Giovanni van Bronckhorst. Première demi-européenne pour un club écossais depuis 2008, là aussi. Et c'était déjà d'ailleurs les Rangers qui avaient atteint la finale de C3 perdue face au Zénith. Ils n'étaient pas franchement attendus là, pourtant, les Rangers.
Non, pas du tout, surtout avec cette saison très particulière. Je vous rappelle qu'ils ont changé de coach déjà. Ouais. Steven Gerrard était sur le banc, champion d'Écosse. On se dit que cette équipe va pourquoi pas essayer d'enchaîner un deuxième titre. Sauf que Steven Gerrard, il y a l'appel de la Première Ligue avec Aston Villa. Conséquence, il quitte. Conséquence, Giovanni van Bronckhorst arrive. On se pose beaucoup de questions d'ailleurs à ce moment avec le technicien néerlandais. Et lui, il a réussi l'exploit au final de réussir à conserver cette équipe dans le même move et avec des qualifications, notamment face à Dortmund, qui a été une qualification exceptionnelle quand même. Le 4-2 puis le 2-2 lors du match retour face à ce club-là. Braga en quart de finale, Braga qui avait éliminé Monaco. Donc c'était quand même là aussi une perte de réussir à sortir le club portugais. Et en plus, les Rangers qui peuvent pourquoi pas viser même un doublé. Je vous rappelle qu'ils sont en finale de Coupe d'Écosse. Ce week-end, ils ont tapé le Celtic, ce qui est pour eux aussi une performance importante puisqu'il n'y aura a priori pas de championnat. Le Celtic est trop en avance en championnat. Donc s'ils réussissent en plus à faire Coupe d'Écosse et Europa League, ce serait une performance folle pour eux. Ils n'étaient pas attendus là, mais au final, ces dernières saisons, ils performent. En Europa League, ils font 2/8 de suite, notamment la saison dernière lorsqu'ils sont sortis par le Slavia. C'était inattendu qu'ils se fassent sortir par le Slavia. Ils avaient été pourtant sortis. Donc au final, il ne faut que progresser. Donc je te réponds au final, non pas tant que ça, ils sont un poil attendus quand même.
Ah, on rappelle qu'il y a quand même moins de 10 ans, ils repartaient de D4.
Absolument, mais justement, ils sont en progression constante au final.
En fait, ce qui est fou avec les Rangers, et d'ailleurs le championnat écossais, c'est que c'est complètement anachronique, c'est-à-dire c'est comme le Portugal, il y a deux équipes.
Ouais.
Au Portugal, maintenant, il y en a trois et demi. Et pourtant, ils arrivent à avoir des perfs européennes.
Mais c'est ça, c'est assez étonnant, surtout les Rangers. Tu l'as dit, ils étaient en D4 il n'y a pas si longtemps au final. Et puis encore une fois, cette saison, tu changes de coach quand même, c'est pas rien, surtout de passer derrière Steven Gerrard qui a réussi de telles performances et réussi à rétablir cette équipe-là, la faisant remonter, etc., etc. Donc que Van Bronckhorst réussisse à garder le même move avec aussi un joueur qui n'est pas là, Morelos, qui est un joueur cadre qui est blessé pour de très nombreuses semaines, réussir à se qualifier pour les demi, c'est une perf phénoménale pour les Rangers.
Et donc Leipzig face à Rangers, comment elle est
perçue? Je peux rajouter juste quelque chose,
Johan, Nico. Bien sûr, Johan.
Non, c'est juste une remarque en fait, c'est ce que vous venez de dire tous les deux avec Salim, c'est qu'en fait on peut mettre du coup pas mal de bémol sur la fameuse phrase le championnat est pas assez fort pour bien nous préparer aux Coupes d'Europe.
Mais bien sûr, bien ça sûr. C'est un truc que moi j'ai jamais vraiment cru.
Ouais. Bah après, on en revient à ce que disait Paulo tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience européenne, c'est peut-être le principal argument pour avoir des résultats en Coupe d'Europe.
Ça peut aider.
Voilà, c'est ce qu'il fait également. Merci beaucoup, les mecs. Merci beaucoup.
Allez.
Merci.
Avec plaisir.
Merci Paulo, merci Johan, merci beaucoup Salim.
Merci Nicolas. Et ça veut dire que pour le podcast sur la finale d'Europa League West Ham Rangers, tu me resolliciteras, c'est ça hein. Ouais, d'accord, c'est ça. D'accord.
Paulo, il est vénère. Il est
le temps. Brexit. Tu connais le Brexit.
Merci beaucoup. Merci ciao, ciao. Jérôme Thomas à la production, Julie Deroy à la réalisation. N'oubliez pas de vous abonner au podcast After Galaxy. N'oubliez pas que l'Europa League, l'Europa Conference League, c'est à suivre sur RMC et sur RMC Sport avec Salim Bangali notamment. Bisous, prenez soin de vous.
RMC After Galaxy, le podcast.
Nicolas Villas.